Voilà, gloire à Dieu, nous continuons et terminons, même si Dieu seul peut achever les sujets d'exhortation, de partage, mais en ce qui nous concerne, nous nous arrêtons aujourd'hui sur le sujet de l'évangile de prospérité ou l'évangile de Jésus. Et notre verset de base, c'était Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Je vais relire ce passage qui est un avertissement capital parce que beaucoup de personnes se sont souvent dit mais non moi je ne sers que Dieu, voilà, bon, j'aime un peu l'argent, c'est tout, mais bon, c'est le Seigneur dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, j'avais paraphrasé la première fois en disant, nul ne peut servir de maître, car il finira par haïr l'un et aimer l'autre. Il finira par s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Donc, ça s'imposera. Et comme on l'avait dit, à cause du péché qui est dans le monde, quand il y a ce choix-là, ça pousse forcément en général à aimer maman, à aimer l'argent. Et la conséquence, parce que Jésus veut nous enseigner quelque chose d'important, il dit non, quand il va aimer l'un, il va mépriser l'autre. Parce que certains croient qu'on peut aimer l'argent et aimer Dieu. Jésus dit non, quand tu aimeras l'un, tu mépriseras l'autre. Au fait, c'est ça l'enseignement qui est là. Parce que ça c'est une parenthèse, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens célébrer l'argent. Utiliser même Ecclésiaste 10-19 en disant l'argent répond à tout. On voit des gens qui mettent l'argent en toutes les sources. Mais après, ils vont vous dire, ah mais, nous évangélisons, nous avons gagné des millions d'euros dans notre ministère, ça fait 20 ans que nous travaillons, nous avons gagné des millions d'âmes en Inde, mais tout l'argent que vous nous donnez, on utilise ça pour acheter des jets privés, aller prêcher. Donc, c'est des gens qui disent, en quelque sorte, nous aimons l'argent, mais nous aimons aussi servir Dieu. La preuve, l'argent que nous avons, ça nous sert à faire des chaînes de télé, pour annoncer l'évangile, en Inde, dans les satellites, par les satellites, en Iran. Vous voyez, les gens sont touchés. Où est le mal d'associer les deux? Jésus dit non, on ne peut pas associer les deux. Jésus dit, on ne peut pas aimer l'argent et l'aimer lui. Donc, ça ne marche pas. Mais ces gens-là disent, si ça marche, vous voyez bien qu'on est riche, mais on ne se repose pas. On court le monde entier pour annoncer l'évangile. Donc, on est bien, il y a quelqu'un, le journaliste lui dit, mais vous pensez que pour annoncer l'évangile, il faut à tout prix avoir un jet privé? Il dit, ah oui, parce que moi, les avions de tout le monde, je pense qu'il y a des démons dedans. Voilà ce qu'il dit. Donc, il lui faut le jet privé, comme ça, il est concentré dans les choses de Dieu. Il dit, mais vous savez, madame, pour prêcher, il faut une certaine concentration. Et dans mon jet privé, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui veut dire, oui, il faut l'argent. On tient à l'argent, mais on tient aussi à Dieu, puisqu'on s'en sert, entre autres, pour aller annoncer l'évangile. Jésus nous dit clairement dans Matthieu 6, 24, les deux ne marchent pas ensemble. C'est vraiment, Jésus savait que les gens auraient ce discours-là. Jésus, déjà, à son époque, nous nous souvenons qu'au temple, il a chassé les vendeurs du temple. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous triompherons par la prière. Nous ne triompherons pas par des gros moyens financiers. Ces gens-là veulent dire, mais attendez, s'il n'y avait pas les moyens dommages financiers que nous sommes en train de réclamer par des appels de fonds systématiques. Comment on aurait pu apporter l'évangile en Inde? Comment on aurait pu... Je peux vous dire qu'il y a des gens qui l'ont fait sans faire des appels de fonds systématiques. Ils l'ont fait par la foi. Dieu leur a donné des moyens autrefois. Il y a des vrais missionnaires qui l'ont fait. Donc ces gens-là veulent dire en quelque sorte, écoutez, c'est la vieille tradition que de mettre en opposition l'argent et Dieu. C'est des vieilles conceptions. Aujourd'hui, comprenons que sans l'argent, on ne peut rien. Ecclésiaste 10, 19 nous le dit. Voyez combien nous utilisons nos jets privés, de l'argent. Mais on leur dit, mais oui, mais les hôtels 5 étoiles. Mais voilà. Donc, c'est pourquoi il faut à tout prix des hôtels. Pas 5 étoiles, les hôtels plus que 5 étoiles. Là où Michael Jackson est passé, c'est là où vous voulez aussi passer. Donc, ils disent, mais non. Dieu est un Dieu de prospérité, ainsi de suite. Mais Jésus vient de nous le dire, on ne peut pas aimer l'argent. Et lui, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est clair. Il dit, où tu aimeras l'un, tu mépriseras l'autre. Tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Ça finira comme ça. Ça finira comme ça. De sorte que Zachée, quand il s'est converti, tout de suite il a fait son choix. Il a dit, je servirai que Jésus. Je ne servirai plus l'argent. Du coup, il a vendu ses biens. Il a donné l'argent aux pauvres. Et il a remboursé ceux à qui il avait volé. Zachée, dès le départ, il a vu la séparation. Voilà. C'est deux choses qu'on ne peut pas mélanger. Les gens vont dire, mais oui, mais on doit bien travailler, il faut des moyens. Mais oui, le Seigneur Jésus dit, il pourvoira. Il a envoyé ses disciples en mission en leur disant, allez prêcher la bonne nouvelle, ne prenez ni or ni argent, je m'en occuperai. Voilà, l'ouvrier mérite son salaire, je m'en occuperai. Le Seigneur nous donnera les moyens qu'il faut. Et souvent, on va se dire, mais tiens, si j'avais tel moyen... J'aurais pu faire ceci, moi le premier, je vous le dis, mais si on avait tel moyen, on aurait eu une chaîne et on pourrait annoncer la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais c'est l'œuvre de qui? Il a dit, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. C'est son œuvre. Si nous on estime qu'il ne fait pas assez, c'est son œuvre. Qu'est-ce que nous on peut faire? Entre-temps, on se réfugie dans la prière pour obtenir les mêmes choses qu'on aurait obtenues par les actes, les actions. Donc, si nous pensons que notre action est diminuée par manque de moyens, ben, compensons cela, parce que c'est notre conception, je le dis déjà, c'est notre façon de voir. On croit que ben, si j'avais plus de moyens, j'aurais pu mieux faire entendre la parole de Dieu. Mais souvenons-nous que ça, c'est notre manière de penser, et que le royaume de Dieu a un général qui a une stratégie meilleure que la nôtre. Donc, disons-nous cela et prions. Refugions-nous dans la prière. Voilà. Beaucoup de gens auraient pensé, selon la logique de la prospérité, mais pourquoi Étienne mourir? Il fallait que ce soit les chrétiens pangolins, là, lambda qui meurent. Hein? C'est Étienne, un chrétien brillant, qui convertit les sacrificateurs, qui fait des miracles somptueux. Et c'est lui que Dieu choisit de mourir. Ce n'est pas rentable, ça. Pour l'organisation chrétienne, c'était pas rentable que ce soit Étienne qui meure. On aurait dû sacrifier les chrétiens de bas régime. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Il a des stratégies à lui. Il a dit, ce n'est ni par la force de l'homme. Ce n'est pas parce qu'un chrétien est brillant que celui qui va apporter beaucoup plus de résultats. Dieu n'agit pas comme ça. Il dit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. Ça, ce sont des concepts qui sont contraires à la logique de l'évangile de prospérité, qui veut du boucan, qui veut de la force. Tout ce qui est visible, tout ce qui conforte la chair, tout ce qui se dit à la chair, tiens, on fait des grandes choses. Mais Dieu, lui, il fait les choses dans le calme, par le Saint-Esprit. Et on peut être surpris. Vous savez, par exemple, j'ai déjà raconté cette jeune fille... dans les îles du Pacifique, qui était allé dans une école chrétienne, qui est revenu dans sa tribu avec un Nouveau Testament, et qu'elle a commencé à lire, puisque c'était la seule qui pouvait lire, aux gens de la tribu. Son père a fini par se convertir, Un jour, qui était le chef de tribu, qui s'en allait dans une sorte de temps de repos, de vacances, de 3 jours, un temps d'excursion de 3 jours, avec ses enfants et quelques membres de la tribu, ben la tribu ennemie, une des tribus ennemies, est venue les attaquer. Du coup, en fouillant, ils ont oublié la jeune fille qui dormait. Ben, elle a été tuée. Mais ces gens-là ont pris le Nouveau Testament, ils ont ramené, ils ont fait lire à un esclave qui savait lire là-bas, ils ont lu, le chef de tribu aussi s'est converti, ensuite, il est parti en bon converti, il est venu demander pardon, il y a eu réconciliation, les deux chefs se sont accordés pour travailler pour répandre l'évangile dans le coin. Voilà comment Dieu a agi à travers une jeune fille qui est morte, finalement. Mais le résultat a été fulgurant. Toute la région a été touchée par la suite par l'évangile. Donc c'est pour dire que la logique de l'évangile de prospérité serait que ce soit la fille là qui reste vivante, plutôt qu'on tue quelqu'un qui n'était pas chrétien. Parce que c'était en quelque sorte, c'était la seule qui savait vraiment lire. Donc c'était la seule qui pouvait être un vrai support, humainement parlant, pour l'évangélisation. Mais c'est elle qui meurt. C'est pour nous dire que le Seigneur dit dans Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous, on se dit, mais tiens, mais c'est la seule qui sait lire. Alors, pourquoi Dieu, c'est elle qui le prend? C'est pas rentable. Non, Dieu fait en sa manière et c'est plus efficace que la nôtre. Au lieu de gémir, de nous plaindre en disant, mais, ah, ben, si on avait plus d'argent, si on avait plus de moyens, on aurait pu, de telles belles paroles, on aurait pu les faire passer dans une chaîne, une grande chaîne qui parle à gauche, à droite, prendre des plages, ça c'est nous, selon notre intelligence. Mais qui a le souci de sauver les gens plus que nous? Personne. Alors si on a de tels soucis, on estime que, voilà, Dieu ne fait pas comme il devrait faire, prions plutôt pour recevoir sa sagesse à lui, prions plutôt pour que nos projets, pour ces projets-là que nous avons, prions pour ces projets-là, et Dieu agira. Voilà. Tout ça pour dire, en introduction, que notre logique n'est pas la logique de Dieu. On ne peut pas servir de maître. Et il faut choisir entre l'argent, les moyens matériels, le visible, ce qui conforte l'homme, ce qui impressionne l'œil. Tout ça, c'est la prospérité, un avancement dans ce qui conforte la chair. C'est ça la prospérité. Le nombre, la croissance matérielle, la santé, tout ce qui fait du bien à la chair et qui la conforte, c'est ça la prospérité, c'est ça la logique de la prospérité. Je tiens bien à le préciser, est-ce que Dieu est contre ça? Ben non, Dieu n'est pas contre ça. Dieu est contre le fait de faire de cette prospérité son égal. Dire, s'il y a Dieu, forcément il y a la prospérité selon l'homme. Non! Dieu est contre ça parce que Dieu considère que la vraie prospérité, c'est lui-même. Si on a Dieu, on a tout. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 6. Il dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il dit, nous n'avons rien, mais nous avons tout, puisque notre Père a tout. Tout est à notre Père, donc tout est à nous. Mais physiquement, on n'a pas, mais en légalement, juridiquement, réellement, tout est à nous. Il vivait dans cette assurance là que tout était à lui. C'est ça que Dieu veut nous communiquer, marcher par la foi en ce qui est écrit. C'est cette relation qu'il veut avoir avec nous. Il veut pas avoir une relation de prospérité, c'est-à-dire que je sais que Dieu est avec moi si je suis prospère selon l'homme. Non, je sais que Dieu est avec moi puisqu'il a dit dans sa parole que si je me repens, si je crois en lui, il est avec moi. Toutes les promesses sont pour moi. Et on l'a dit aussi dans les deux précédentes séances, quand on dit que Dieu pourvoira, Dieu donnera, et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, on a dit que c'est pas forcément qu'il va nous donner ce que nous on a, mais nous on n'aura pas ce manque-là de ce qu'on veut. Il peut enlever le manque, de sorte qu'on est comblé, mais d'une autre manière. Donc, c'est ça le vrai évangile, c'est-à-dire c'est la relation avec Dieu. L'amour, vivre dans l'amour de Dieu et par la foi. C'est ça le véritable évangile. Fusionner avec Dieu. C'est ça le véritable évangile. C'est ça l'objectif. Dieu veut nous élever. Il ne veut pas... Vous savez, comment dire? Si Dieu était sur le régime de la prospérité, il serait en quelque sorte... tous les chrétiens seront en défaite parce que les plus riches sont les païens. Les plus riches sont les païens. Si Dieu était dans le régime de prospérité humaine, mais pourquoi Jésus a vécu cette vie-là? Où il dit le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où dormir. Voilà. Si Dieu était dans une logique de prospérité humaine, pourquoi les apôtres ont vécu cette vie-là? Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Jésus nous prévient par rapport aux riches. Il dit, les riches, ça sera difficile qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Parce qu'ils vont se compter, ils vont... se reposer sur leur richesse comme force. Or, ils doivent se reposer, ils doivent chercher Dieu. Jacques dit que dites aux riches de ce monde que leur richesse est rouillée. L'apôtre Paul dit à 1 Timothée 6 que ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans le piège. Alors, donc, on voit bien que l'évangile de prospérité n'est pas biblique. Il est satanique. Et ces gens-là vont dire, ah, mais oui, mais ça nous permet de servir Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. C'est ce qu'il a dit. Et cet évangile de prospérité a détruit l'église visible. Elle est là visible, mais elle fonctionne sous un autre régime. Ce n'est pas le régime de Dieu. Et c'est de la foi en vain, dont nous allons lire dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est des gens qui sont en masse dans des bâtiments, ils font des choses de Dieu, mais ils ont cru en vain parce qu'ils n'ont pas l'évangile tel que Dieu le veut. L'évangile qui consiste à recevoir la nature divine et vivre de cette nature, naître de nouveau, vivre du ciel. Ils vivent de la terre et selon la logique de la terre. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est ça que Paul a enseigné. Ensuite, il a enseigné que on devait vivre la vie nouvelle par cette vie-là de Christ. C'est ça l'évangile, vivre une vie qui vient du ciel. Et on a parlé de Zachée, de la vraie conversion. Dès qu'il a reçu cette vie, il s'est détaché du matériel. Parce que cette vie-là qu'on reçoit de Dieu n'a pas besoin du matériel pour fleurir, pour prospérer. Et du coup, quand on revient au matériel pour chercher la prospérité, on s'écarte de l'évangile. On croit en vain. Revenons au véritable évangile. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, ni argent ni or. Ce que j'ai une vie, une puissance du ciel. Ça peut te faire, ça peut te guérir. Est-ce que le Seigneur a guéri tout le monde? Non. Parce que tout ça, les miracles, les guérisons, sont des signes que Dieu envoie. C'est pourquoi dans la Bible, on les appelle aussi des signes. Pour nous montrer la bonne voie. Que là, on est face au Dieu véritable. Parce que regardez comment cet homme est guéri. Attachons-nous à Dieu. On n'a pas à s'attacher au système de miracles, au système du visible. Ça, c'est l'évangile de prospérité qui veut créer du visible pour attirer les gens. Alors que ce que Dieu peut faire comme miracle a pour objectif non pas de faire des miracles sur tout le monde, mais c'est d'attirer vers lui. Et ensuite, lui s'occupe de toi. Le monsieur qui est né sans jambes ni bras, ben, Dieu ne l'a pas guéri. Mais aujourd'hui, il a plus de richesses que nous tous réunis. Il est connu dans le monde entier plus que nous tous réunis. Je ne cherche pas à dire que c'est ça la preuve que Dieu est là. C'est pour dire que sans bras et sans jambes, il a pu avoir ce que les valides n'ont pas. C'est pour dire tout simplement que Dieu peut agir sans te guérir, mais te combler de sorte que tu es heureux. Parce que le but de tout, c'est quoi? C'est être heureux. C'est ce que Jésus appelle la vie en abondance. Je suis venu donner la vie en abondance. Que tu sois dans la joie, dans la paix. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Moi, je suis pasteur. Je circule dans les maisons, intervenir dans les maisons, dans la vie des gens. Il y a des gens qui ont des maisons hyper propres. Les meubles sont en blanc. C'est hyper propre. Mais rempli de problèmes familiaux. Qui, quand tu sors de cette maison-là, tu es épuisé par les problèmes que tu as entendus. J'ai été reçu dans une maison dans un pays étranger, mais le lit sur lequel j'ai dormi, mais c'était gros comme un camion. Donc je me disais, ah tiens, avec un tel lit, je peux dormir avec tous mes enfants. Mais quand on te raconte la situation qu'il y avait dans la maison, c'est horrible. Je peux même pas en parler. C'est ça. C'est pas ça. Le bonheur, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le vrai bonheur. Et amener les gens dans la logique de prospérité matérielle, prospérité réussite sur terrestre, c'est un faux évangile. Sur toute la ligne. Et Jésus a dit, il finira par aimer l'un et haïr l'autre. Progressivement, ça va finir par la détestation de Dieu. Ah oui, oui. Je me souviens d'un chantre chrétien. On lui a dit, puisqu'on va en parler de tout ça là, justement, aujourd'hui le thème c'est toutes les dérives qu'on peut trouver aujourd'hui. On lui a dit, l'idée c'est de dire, ces dérives sont venues progressivement. C'est ce que Jésus a prophétisé. Tu finiras, il haïra l'un, il finira par aimer l'un et haïr l'autre. En fait, ces dérives là montrent qu'on déteste Dieu. Parce que, l'opposition à Dieu devient ouverte. Je vais vous donner cet exemple-là. On dit, le journaliste pose la question au chantre chrétien, « Mais pourquoi vous faites payer les concerts? Dieu n'a-t-il pas dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement? » Quelle est la réponse du chantre chrétien? « Mais vous pensez que, comment on va organiser ces concerts, louer les salles, le matériel, et vous pensez qu'on va faire comment ? » Mais le journaliste a dit, mais c'est Dieu qui vous a envoyé, il va vous donner les moyens. Attendez, dit le chantre chrétien. Et c'est un chantre reconnu très sérieux dans son milieu. C'est l'un des plus propres. Il dit, mais attendez, vous croyez que l'argent va tomber du ciel comme la manne? Au fait, sa réponse contredit l'idée qu'il veut faire passer. Parce qu'il dit, vous pensez que l'argent va tomber du ciel comme la manne. Oh, la manne est un exemple d'un miracle qui tombe du ciel. Voilà. Au fait, il s'en rend pas compte qu'il se noie lui-même par sa réponse. Tellement, ils sont égarés dans leur pensée. Parce que quand il dit, vous pensez que l'argent va tomber du ciel comme la manne. Au fait, il a la réponse à lui-même. Donc, c'est-à-dire que, à cette époque-là, ils ont manqué de nourriture, ils auraient pu dire, mais il y a le désert, la nourriture va venir d'où? Mais la nourriture est venue du ciel. Donc pourquoi Dieu ne le referait pas aujourd'hui avec les moyens financiers? Vous voyez? Et donc, lui-même, il donne la phrase qui le noie. C'est une offense à Dieu. C'est une façon de dire, Dieu ne peut pas encore faire tomber des choses du ciel. Voilà ce qu'il veut dire. Il haïra l'un. Voilà. Il aimera l'un et il finira par haïr l'autre. Parce que je peux vous dire que lui ne se rend pas compte qu'il déteste déjà Dieu. Il s'en rend pas compte parce que là, il vient de faire offense à Dieu. Vous connaissez l'histoire, non, du de l'aide de camp d'un roi du temps d'Élisée. Quand Élisée a prophétisé, alors qu'il y avait une famine terrible à Samarie, et Élisée prophétise que le lendemain, il y aura tellement de nourriture que, je donne un exemple, 10 kilos de farine coûterait peut-être 50 centimes. Alors que nous sommes en pleine famine, il dit, en un jour, il y aura autant de nourriture qui viendra. Mais le monsieur, l'aide de camp du roi, il a dit, mais même si Dieu doit ouvrir les écluses des cieux, une telle parole ne peut pas s'accomplir. C'est une façon de dire, Dieu n'est pas capable de faire ça. C'est une offense. C'est pourquoi le prophète lui a dit, tu verras ça demain, mais tu n'en profiteras pas. Effectivement, le lendemain, je ne veux pas raconter toutes les circonstances, il y a eu beaucoup de richesses et de nourriture presque gratuite. Mais comme il y avait la foule qui allait récupérer les choses, le monsieur est tombé sous le poids de la foule et on a marché sur lui, il est mort. Il a vu, mais il n'en a pas profité. Ce chantre, quand il dit ça, il veut dire quoi? Dieu n'est plus capable de faire des miracles pour produire des choses. Il a renié sa foi. Mais il ne s'en rend pas compte. Jésus a dit, retenez cette phrase-là, il finira par aimer l'un et haïr l'autre. Ça veut dire que c'est une tendance qui va s'installer. C'est ça l'évangile de prospérité. C'est un évangile qui déteste le Seigneur, qui déteste sa parole, qui déteste la vie de Jésus, qui était une vie dépendant de Dieu seul. Selon l'évangile de prospérité, Judas ne pouvait pas être trésorier. Comme c'était un voleur, il dit, mais c'est pas rentable. Mais Jésus l'a laissé trésorier parce qu'il y avait le plan de Dieu dans tout ça et que Jésus ne dépendait pas de la richesse que Judas pouvait gérer, il dépendait de la richesse du ciel. L'évangile de prospérité est contre Dieu. Il finira, mais on ne s'en rend pas compte. Tout a commencé progressivement. Premier point de l'évangile de prospérité, des dérives, c'est que ça fait croire aux gens que le bonheur se trouve dans la prospérité humaine, matérielle, terrestre, dans la réussite terrestre. On fait croire aux gens, viens au Seigneur, tu seras marié, tu auras des enfants, tu auras un bon boulot. En Afrique, on dira, tu iras en Europe. Donc, on veut dire à quelqu'un, quoi? C'est que ton bonheur viendra de quoi? De ton mariage. Ton bonheur viendra d'un bon boulot. Ton bonheur viendra d'un voyage en Europe. Ton bonheur. Donc, on contredit le fait que Dieu est la vraie richesse et le vrai bonheur. Lisons. C'est pas moi qui dis. Lisons Jérémie 9, 23. Qu'est-ce qui est la vraie réussite? On va lire ça dans Jérémie 9, 23 à 24. C'est écrit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Ce passage-là contredit la logique de la prospérité humaine. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, puisque l'évangile de la prospérité, c'est viens dans les séminaires, apprends, deviens grand connaisseur de la Bible, grandis dans la... Voilà, on veut te faire de toi quelqu'un de grand dans la sagesse, voilà. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, c'est ça l'évangile de la prospérité, tu vas devenir fort. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Voilà l'évangile de prospérité. Mais Dieu contredit ça au verset 23. Mais qu'est-ce que Dieu préconise? Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Il dit, La réussite, ce n'est pas la force, la richesse, la sagesse, le mariage, tout ce que vous pensez là. Ce n'est pas ça qui doit faire l'objet de votre joie, de votre gloire. Que votre gloire, c'est que je vous ai ouvert les yeux pour me connaître, moi. C'est moi la vraie gloire, l'Éternel des armées, c'est moi. Jérémie ailleurs va dire, mais vous lâchez Dieu pour choisir les citernes crevassées. Tout ce qu'on dit là, la richesse, la sagesse, la force, c'est des citernes crevassées. 100 ans après, tu les as plus. Dans le tombeau, tu les as plus. La vie, c'est Dieu lui-même. Parce que ça ne finit pas. Donc, faire croire aux gens que le bonheur se trouverait dans la prospérité humaine, selon la logique humaine, celle qui conforte la chair, ce qui satisfait la chair, ce qui... C'est ça qui fait que beaucoup ne sont pas dans le véritable évangile. Beaucoup arrêtent avec le Seigneur, ont des troubles avec le Seigneur parce qu'ils ne parlent pas langue. Ont des troubles avec le Seigneur parce qu'il n'est pas marié. Des troubles avec le Seigneur parce que ses cheveux poussent mal. Il y a des gens qui n'ont pas une vie abondante que Jésus a promise à cause du fait qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas prospères dans un domaine ou un autre. Au lieu de comprendre que être avec Dieu, c'est le terminus. J'y suis, c'est bien, tout est pour moi. Je trouverai tout dans le Seigneur, pas pour chercher. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne doit pas prier pour que les cheveux poussent? Non, je suis en train de dire, mais c'est pas ça qui doit conditionner notre bonheur. On peut prier pour que les cheveux poussent. On peut prier pour acheter des voitures. On peut prier pour tout ça, pour se marier. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Dieu dit, mais les païens ont. Pourquoi moi, je ne vous donnerai pas? Mais Dieu veut nous ouvrir la porte à quelque chose de supérieur. Sa gloire, c'est supérieur à tout ça. Et ça peut produire ce qu'on est en train de citer. Mais il ne veut pas qu'on s'attache à ces choses-là parce qu'elles sont de la terre. Elles sont éphémères. Il veut qu'on s'attache à sa gloire, à lui-même qui est éternel. Et que quand maintenant il dispose ces choses-là pour nous, on les prend à leur position. On sait que ce sont des choses de la terre. On en mange, on s'en réjouit, et puis on passe. On se focalise pas là-dessus. Parce que les gens vont dire, mais ils prêchent la pauvreté. Pas du tout. Je suis en train de dire tout simplement, il y a une plus grande richesse, c'est Dieu lui-même. Et tout le reste est secondaire et faible. Pourquoi on va enseigner ce qui est faible? On préfère enseigner ce qui est élevé et glorieux. C'est cela, bien-aimé. Et Jérémie 9, 23, 24 contredit ça. Et toute la Bible contredit l'évangile de prospérité. Parce que toute la Bible nous enseigne qu'il y a la vérité, la gloire et la puissance. L'honneur ne se trouve qu'en Dieu seul. Et que c'est quand on est attaché à lui, qu'on a ouvert un couloir céleste qui nous amène ce dont on a réellement besoin. Mais le but de Dieu étant quoi? Étant toujours nous approcher de lui. Donc Dieu ne peut pas nous confier dans les choses de la terre. Il sait que c'est des choses corrompues. Jésus les a appelées des richesses injustes. Voilà ce que Jésus a appelé ces richesses-là. Des richesses injustes. Donc Dieu ne peut pas, en bon père, nous confier dans les richesses injustes. Donc, faire croire aux gens que le bonheur se trouve dans l'avancement des choses de la terre, fût-elle parfois, entre guillemets, spirituelle. J'ai bien prêché, j'ai bien expliqué les choses. Ça, c'est pas de Dieu, c'est de la chair. La parole de Dieu doit être dite sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est pas ta bonne explication qui va toucher les gens. Combien de fois des gens sont venus nous voir pour dire mais qu'ils avaient été touchés parce que la prédication a répondu à leurs problèmes. Et quand ils expliquent leurs problèmes, nous on voit pas de lien entre la prédication et leurs problèmes. Mais comment ils ont trouvé un lien? C'est le Saint-Esprit qui leur a parlé. C'est pas la bonne explication. Tout ça c'est charnel. Ça conforte la chair. J'ai bien expliqué les choses. Pas du tout. L'explication ne sauvera personne. C'est Dieu quand il parle que ça sauve quelqu'un. C'est la puissance du ciel qui sauve. Alors tout ce sur quoi on peut se réfugier pour conforter la chair, réjouir la chair, c'est de l'évangile de la prospérité. C'est pas biblique. Le vrai évangile, ça compte sur Dieu. Dieu lui-même touchera les cœurs. C'est important. Autre dérive, c'est les concerts aujourd'hui, les séminaires payants, dont les gens annoncent l'évangile en faisant payer. Ils parlent de la part de Dieu en faisant payer les autres. Matthieu 18, Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans 1 Timothée 6, on dit qu'on ne doit pas faire de les choses de Dieu une source de gain sordide. Où est-ce que Jésus a fait payer quoi que ce soit? Où les apôtres? Concert. Et quand on dit, mais comment vous faites payer? Ah oui, mais comment on va organiser les choses? D'où viendra l'argent? Mais qui vous a envoyé? Demandez à la personne qui vous envoie de faire les concerts et d'organiser, de payer. Si c'est Dieu, mais demandez-lui d'abord de vous donner les moyens. Ne vous embarquez pas. Si c'est lui, il pourvoira. Sinon, ne faites pas. Ça, c'est la logique de la prospérité qui s'est installée. Et on marche selon la logique humaine, alors que le Seigneur a dit que lui-même, il pourvoira. L'ouvrier mérite son salaire. Je sais que ça peut choquer certaines personnes qui vont écouter, mais la vérité, c'est celle-là. C'est que Dieu est tout puissant pour pourvoir aux besoins de son œuvre. Je bâtirai mon église, il a dit dans Matthieu 16. Tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai. Donc Dieu pourvoira. Donc on n'a pas à faire payer les concerts, à faire payer les chrétiens, à faire payer les séminaires. Non. Ni par ailleurs à faire des appels de fonds intempestifs, systématiques pour faire l'œuvre de Dieu. Ça peut arriver qu'on en fasse, puisque Paul en a fait une fois pour aider les chrétiens de Jérusalem. Ça peut arriver sous l'impulsion de l'Esprit, parce qu'on voit que pour la construction du temple, il y a eu appel de fonds. Ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose de systématique, ni de récurrent, non. C'est quelque chose qui est fait sous l'impulsion du Saint-Esprit, et non pas comme si les gens ne donnaient pas. Une fois, j'avais reçu la lettre d'un serviteur de Dieu. Ah, comprenez que si vous ne donnez pas, on ne pourra pas faire. C'est faux, ça. Si la volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. Si Dieu veut que une œuvre se fasse, ça se fera. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas donné l'argent. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, se réjouissait qu'on lui ait envoyé de l'argent. Il ne se réjouissait pas pour lui. Il se réjouissait pour ceux qui ont envoyé, puisqu'ils seront bénis. Il disait, en faisant cela, vous serez bénis. Je me réjouis pour vous. Voilà. Aujourd'hui, moi, je peux être attristé de voir que les chrétiens ne donnent pas à Dieu. Non pas que je pense que l'œuvre de Dieu sera freinée. Non, je m'attriste de voir qu'ils vont pas prospérer, c'est tout, quoi. Celui qui sème peu récoltera peu. Voilà. Je m'attriste de cela, de voir qu'ils n'ont pas compris Dieu, quoi. Ils n'ont pas saisi à qui ils avaient affaire, tout simplement. Mais penser que l'œuvre de Dieu sera freinée, jamais. Puisque c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui bâtit ça. Donc on n'a pas à faire payer ces choses-là, ni à mettre la pression aux gens par des appels de fonds systématiques et qui ont amené certains païens à ne pas se convertir quand ils ont vu ces appels de fonds systématiques intempestifs. Et ils se sont dit, mais Dieu, ça ne peut pas être Dieu comme ça. La conception qu'on a de Dieu, Dieu n'est pas si faible pour mendier comme ça, non. C'est pas ça. C'est une offense à Dieu, parce que ça rabaisse Dieu. Il aimera l'un, il haïra l'autre, sans s'en rendre compte petit à petit. Et les offrandes forcées. On dit, bon, les gens qui donnent 500 euros, on va prier pour eux. Après, pour les autres, vous pouvez mettre dans l'autre panier. Et donc, du coup, les gens qui se lèvent, qui viennent donner les 500 euros, et puis, voilà. C'est des offrandes forcées. Il y a un frère, un de nos frères qui est parti récemment dans un pays d'Afrique. Il a dit, la tante l'a invité dans leur église. Arrivé là-bas, il y avait à un moment donné, allez, le pasteur a dit, il y a 3 paniers, un panier pour ceux qui veulent donner, je vais mettre en euros, ceux qui veulent donner 150 euros, c'est tel panier, et il y a telle promesse liée à ça. Deuxième panier, 100 euros, telle promesse liée à ça. Troisième panier. Eh bien, lui, il s'est levé, il est sorti de... Quand il s'est levé, les gens se sont dit, ah, voilà l'Européen qui vient, sûrement il va... Non, lui, il s'est levé, il est sorti de la salle. On l'a cherché, il n'était plus là. Il est reparti à la maison. Et... Mais les gens donnaient! C'est du vol, les offrandes forcées, les voleurs du temple, les marchands du temple. Ils font offense à Dieu. Ils font offense à Dieu. Ils haïssent Dieu maintenant. Ils ne veulent plus de la simplicité de Dieu. Ils ne veulent plus vivre par la foi. C'est des déviations qui deviennent évidentes, puisque même les païens voient ça. Les faux miracles, toujours c'est la logique de prospérité. On veut mettre plein à l'œil, tape à l'œil. Allez, même des faux miracles. Normalement, un miracle, ça se voit, ça ne se publie pas, ça se voit. C'est-à-dire quand tu es guéri, que tu étais aveugle, que tu étais infirme, les gens vont voir ça. T'es pas obligé de dire, de passer devant et de commencer à dire j'avais une jambe qui s'est allongée. Les gens ne voient pas, c'est toi qui le dis. Voilà, donc un miracle doit se voir. Et aujourd'hui, c'est l'homme qui en parle, au lieu que le miracle parle de lui-même. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus parler d'un seul miracle qu'il a fait? Jamais, même d'un seul. Ni les apôtres, ni Jésus ont parlé d'un seul miracle. Aucun. C'est les miracles qui allaient parler de l'évangile. Donc les gens, quand ils voyaient, ils ont vu le démoniaque de Gadara. Mais il est devenu normal, ils ont fui. De crainte. Le miracle a parlé. Aujourd'hui, ce n'est plus le miracle qui parle. C'est l'homme qui en parle, qui vante les miracles. C'est là l'évangile de prospérité, on veut taper à l'œil. C'est une offense à Dieu. Ce n'est plus Dieu qui est glorifié, et c'est les hommes qui ont prié pour les gens qui sont glorifiés. C'est le visible qui est glorifié, alors que l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. C'est cela le principe du Seigneur. Voilà, on est là dans la publicité de ce que Dieu fait. C'est l'homme qui fait la pub. Au lieu de prêcher l'évangile, il parle de ce que Dieu a fait. Non, on doit prêcher l'évangile. On ne nous a pas demandé d'aller dire ce que Dieu a fait comme miracle à gauche, à droite. Non, on a déjà demandé de prêcher l'évangile. Les miracles parleront d'eux-mêmes. C'est-à-dire que la personne qui sera touchée va crier, je suis guéri. Tout le monde va voir. Tellement, le monsieur a commencé à sauter. Quand Pierre l'a guéri, il a commencé à sauter et à louer Dieu. Les gens, le miraculé a parlé. C'est pas Pierre. Pierre maintenant a donné l'explication. Il a dit, mais vous croyez que ça a été fait comment? C'est par la foi en Jésus que ça a été fait. C'est tout. C'est tout. La course au nombre. L'évangile de la prospérité. La course au nombre. Ah oui, il y a eu 3 jours de séminaire et 10 000 personnes sont venues. Mais ce qu'ils oublient, c'est que en 3 jours, il y a eu des gens qui sont venus pendant les 3 jours. Et c'est le gros de la troupe. Donc, c'est ce que quelqu'un appelait les mathématiques évangéliques. Voilà. Donc, on ajoute, il y a eu 1 000 aujourd'hui, 4 000 demain, 5 000 le lendemain. Et il y a eu 1 000, voilà, 3 jours, 1 000, 4 000, 5 000, ou bien, disons, 2 000, 3 000, 3 000, 4 000. On dit, il y a eu 10 000 au total en 3 jours. C'est les mathématiques de la prospérité, de l'évangile de la prospérité, les mathématiques, voilà, de prospérité. C'est faux. Peut-être les 3 000 du premier jour sont revenus le lendemain, donc après encore, et donc du coup, c'est faux de dire qu'il y a eu 10 000 personnes en 3 jours. Donc c'est tout ça parce qu'on veut. On veut prospérer humainement. On veut frapper de l'œil. Mais quand le Seigneur a parlé, il a dit qu'il fallait le manger. Tout le monde l'a quitté. Il est resté avec les 12 seulement. La gloire de Dieu, c'est plus important que tout ça. Quand la petite fille dont je parlais, elle a amené son Nouveau Testament, elle était toute seule. Elle lisait, son père s'est converti. Deux ou trois personnes seulement s'étaient converties. Après, elle est morte. Voilà. Elle est morte en laissant peut-être deux ou trois convertis. Mais après, c'est Dieu qui a embrasé. Par son système à lui de sacrifice et d'amour. On veut nous inculquer le nombre, parce qu'on veut voir, on veut tout. Non. Faisons la volonté de Dieu. Annonçons l'évangile, faisons de notre mieux. Que chacun fasse sa part. C'est pourquoi quand les disciples sont partis, Jésus leur a dit, je vous envoie moissonner là où vous n'avez pas semé. C'était pour leur dire que le fruit que vous allez avoir n'est pas le fruit de votre travail. C'est un travail d'ensemble dans mon système. Et vous, vous avez été choisis pour moissonner. Mais il y a des gens qui ont semé avant vous. Il y a des gens qui ont bossé. Mais vous ne savez pas qui. Donc c'est Dieu qui est en train de bâtir son œuvre dans le monde entier. Faut pas croire que parce que moi j'ai prêché, il y a 500 personnes qui se sont converties, c'est mon travail, c'est mon éloquence. Non! Il y a un travail d'ensemble dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit, par la parole, par d'autres avant nous, par des prières des uns et des autres à gauche, à droite. Ce travail-là d'ensemble produit ce qu'on voit. Et nous, on a été choisis peut-être pour récolter, c'est tout. Donc, nous ne devons pas nous confier en ce que nous voyons pour croire que nous avons fait quelque chose. L'évangile de prospérité est mensonger. Il fait croire à quelqu'un que c'est lui qui a fait. Non. Il y a un travail d'ensemble. Attention à la course au nombre. Faisons le travail. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et on en arrive à cette histoire des conflits de droits d'auteur où des chrétiens sont bloqués par l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas chanter des chants chrétiens parce qu'il y a des droits d'auteur qui bloquent ces chants-là. C'est des aberrations. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Qui bloque tout. L'œuvre de Dieu n'avance plus. L'Esprit Saint ne peut pas circuler parce qu'il y a des droits d'auteur qui le bloquent. C'est pas normal. C'est anti-Dieu. Et plein d'autres choses. Le commerce des livres, des CD, c'est vendu. Donc les gens commencent à vivre de cela. Il y en a même qui disent, mais je vis de cela. Mais qui t'a demandé de vendre pour vivre? C'est pas Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vis de cela, non. Tout ça, ce sont les déviations liées à l'évangile de prospérité. Les grands édifices, les centres commerciaux, l'évangile de prospérité. Un grand édifice, un grand centre entre guillemets évangélique, où tu as des cinémas dedans. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des cinémas dedans. Qui ont des épiceries, des restaurants dedans, dont tu viens le matin, tu ressors le soir, tu as tout dépensé à l'intérieur. On garde, on capte ton argent. C'est vraiment les marchands du temple. Des offenses directes à Dieu. Directes. C'est ça la réalité. Tout ça parce que on n'a pas voulu se départir de l'argent, de mammon, de la prospérité. On n'a pas voulu avoir qu'un seul maître, Jésus. On a voulu avoir deux maîtres. La richesse, la prospérité humaine et Dieu en même temps. Le Seigneur nous a prévenus, on finira par aimer l'un et haïr l'autre. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que les gens finissent par aimer plutôt la prospérité humaine et haïr Dieu. Ils disent, mais non, on le sert. Non, vous le haïssez, parce que voilà ce que vous faites qui s'oppose à sa doctrine, qui s'oppose à sa parole. Tout ça, ça vient pas à pas. C'est vrai que je dénonce des dérives qui sont devenues criantes, mais faisons attention dans nos propres vies à comment nous envisageons les moyens matériels. Attention que ça ne nous domine pas, parce que si ça nous domine, ça devient maître. Nous devons mettre ça à sa place. Ce n'est que secondaire. C'est Dieu qui tient ma vie. C'est pas un salaire. Comme aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas travailler sans salaire. quand je veux dire sans salaire humain, je ne parle pas du salaire céleste, mais salaire humain. Il faut qu'une organisation les paye pour qu'ils travaillent. Non. C'est pas biblique. C'est Dieu s'occupe de ses serviteurs. Nous devons revenir à la foi simple. À la foi simple. Nous devons nettoyer. Et je conclue en disant, en rappelant le combat premier du Seigneur, ça a été contre l'évangile de prospérité, dans le désert. On lui a dit, transforme les pains, les pierres en pain. Il a dit non. Je ne cherche pas la gloire de Dieu à travers les éléments physiques. Voilà. Je ne veux pas transformer les pierres en pain. Je m'attends à mon Dieu. Et il nous a dit qu'après, les anges sont venus le servir. Mais il était servi. Et ensuite, on lui dit, mais on va te donner toutes les richesses, les royaumes. Il faut m'adorer. Mais Jésus a dit non. Je suis roi par le Seigneur, mon Dieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est moi. Je le sais, mais mon temps n'est pas encore venu. Mais je le suis déjà. Je refuse la royauté de ce monde. C'est ça l'évangile de prospérité. Il veut nous donner la royauté de ce monde. Le kingdom là, le royaume ici sur terre. Or Dieu nous a promis la royauté céleste. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes soldats seraient venus me libérer. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mais l'évangile de la prospérité, c'est le royaume est de ce monde. La richesse est de ce monde. Ça contredit le véritable évangile. Et dernier point, on lui dit, mais tiens, tu peux devenir très populaire, il suffit de faire un miracle par un saut dans le vide et que tu ne meurs pas. C'est ça l'évangile de prospérité. Chercher à être populaire par l'extraordinaire, par l'extravagance. Jésus a dit non. Voilà l'appel que le Seigneur nous fait. C'est de sortir de cet évangile terrestre qui a amené certains à abandonner la foi parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Parce qu'un enfant est mort. Un parent est mort. Ils cherchent le salut dans les choses de la terre. Et quand on leur en prive de certaines choses de la terre, ils disent « Dieu n'existe pas. Dieu n'a jamais dit qu'il allait prouver son existence en nous donnant ceci, en nous donnant cela. Il existe avant tout ce que nous voyons là. Pourquoi ferait-il dépendre son existence de ça ? Ça veut dire qu'il s'infériorise par rapport à ça. Dieu a tout pris à Job. Tout pris à Job. Il voulait le faire comprendre que le bonheur ne venait pas de ce qu'il avait. Entre autres leçons qu'il voulait donner à Job, c'est que tu ne dois pas tirer ton bonheur du nombre d'enfants que tu as, des beaux enfants que tu as, parce que Job faisait tout pour être en bonne relation avec Dieu, pour préserver tout ce qu'il a aussi. Il faisait même des sacrifices pour ses enfants au cas où ils auraient péché. Voilà les chrétiens de la prospérité. On va aller au culte, on va prier, on va jeûner. Comme ça, on garde tout ce que Dieu protège nos biens. Dieu fait marier mes enfants. Dieu fait ceci à mes enfants. Dieu a tout pris. Et c'est là que Job, à la fin, va dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil te voit maintenant. Je sais combien tu es glorieux. Que tu es immense, que la richesse c'est toi vraiment, c'est pas tout ça. Il est écrit que Dieu lui a donné par la suite beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de richesses. Mais Job avait déjà zappé tout ça, il était maintenant dans Dieu. Il avait trouvé la vraie richesse en Dieu. Même quand Dieu lui a donné beaucoup plus, c'était secondaire. Comme on dit en français, cerise sur gâteau, sur le gâteau. C'était ça. Mais le gâteau, c'était Dieu lui-même. Revenons à cela, à la vraie relation avec le Seigneur. à la dépendance de la vie céleste. Nous allons respirer la gloire de Dieu. Nous pourrions dire comme Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai autre chose. J'ai ça. Aujourd'hui, les chrétiens, on apprend, ah vraiment, Dieu fait des grandes choses. Mon fils est devenu médecin. Ah, Dieu fait des grandes choses. Mon fils est à Monaco, dans l'équipe de football. Donc, les gens, non, ce sont ces trucs-là que des païens ont. C'est ça qu'ils utilisent pour dire que Dieu est avec eux. Je ne dis pas que c'est Dieu qui ne bénit pas en cela, mais je dis que on n'a plus tellement de puissance céleste qu'on est obligé de faire montre des choses terrestres pour dire que Dieu est là. C'est honteux. Pierre, lui, l'a dit, je n'ai ni argent ni or. Donc, les choses terrestres, je n'ai pas. Mais j'ai autre chose que la terre ne peut pas te donner. La puissance de Dieu qui peut te faire marcher. Voilà. Lève-toi et marche. Ah! Là, ça dit, quand vous passez là, les gens vont dire, les fils de Dieu nous ont visités. Voilà. Ils vont dire cela. Mais si on vient là, voilà. Mon fils est devenu médecin. Ma fille s'est mariée. Les gens vont dire, ah, il a de la chance. Les gens vont dire ça. Ils vont même pas penser à Dieu. Ou bien ils vont penser à Dieu dans le fait de chercher un profit. Ah, mais ah, donc son Dieu donne ces choses-là. Ben, on va venir. Comme ça, il va nous donner les mêmes choses. Ils vont même pas penser à la communion avec Dieu. Mais quand Pierre dit, je n'ai pas d'argent ni or, mais j'ai Dieu. Quand des gens comme ça sont guéris, ils cherchent ce Dieu-là qui les a guéris. Alors, ils le cherchent. Revenons à la vie céleste et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous aides à revenir à la vie céleste. Une vie qui reçoit la nourriture du ciel. Une vie qui dépend du ciel. Une vie qui nous élève à être tes enfants. Quand même, c'est extraordinaire d'être fils de Dieu. C'est cette vie-là que tu veux pour nous. Où nous allons piloter des choses du ciel. Gérer des ressources célestes. Seigneur, préserve-nous de chercher à gérer les ressources terrestres. Que les morts s'occupent d'enterrer leurs morts. Que nous, on s'occupe du ciel, Seigneur. Aide-nous, ô Seigneur, à nous humilier et à te laisser nous purifier des mauvaises conceptions qui ont miné notre vie chrétienne. Purifie ton Église, Seigneur. Que ce message, Seigneur, soit entendu et apporte la délivrance, la libération. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.